VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci de démarrer la semaine sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson ce matin à la une de notre émission.
Pierre Nkurunziza réapparaît détendu à Bujumbura. Des manifestations contre un troisième mandat sont prévues.
Le général Cyril Ndahiru Kiré, numéro 2 du putsch raté, met en cause le ministre de la Défense et le chef d'état-major dans la préparation du coup d'État.
Et qu'apparemment, ils ont joué un jeu un peu surprenant, un double jeu, dirions-nous. Dès lors, le général sollicite une confrontation avec les intéressés.
Maître Benewende Sankara, désigné candidat des sankaristes pour la présidentielle d'octobre prochain au Burkina Faso.
Le Niger et sa capitale Niamey, toujours très affectés par les cas de méningite.
C'est une souche qui n'est totalement inhabituelle, qui était plutôt mineure dans le passé. Et donc, c'est la première fois qu'on a une souche C qui devient épidémique avec une telle ampleur.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports, le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
À Bujumbura, de nouvelles manifestations sont prévues ce lundi contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Hier, ce dernier a fait sa première apparition publique depuis son retour et la fin du putsch raté. Le président burundais avait convié les journalistes pour un point de presse où il n'a pas été question de politique intérieure. Henri Francisque.
Vêtu d'un costume bleu à manches courtes, l'air détendu et souriant, M. Nkurunziza s'est exprimé très brièvement pour dire que le Burundi prenait des mesures pour faire face à la menace des Chababs somaliens.
Vous savez bien que le Burundi fait partie des pays contributeurs de troupes au niveau de la Somalie. Donc c'était juste, nous étions venus pour contacter mes amis et mes homologues au Kenya, tout comme en Ouganda. Ce sont des pays que j'ai cités, qui sont des cibles privilégiées de Al-Shabaab.
C'est la première apparition officielle et publique de M. Nkurunziza, 4 jours après la tentative de coup d'État qui a menacé de le renverser, alors qu'il assistait en Tanzanie à un sommet régional sur la crise politique du Burundi. Une 20aine de putschistes, dont au moins 3 meneurs, ont été présentés à la justice au cours du week-end. Le cerveau présumé du coup, le général Godefroy Nyambaré, un ex-compagnon d'armes de Pierre Nkurunziza, est toujours en fuite, selon les autorités. La contestation de la rue ne faiblit pas, puisque de nouvelles manifestations sont à attendre ce lundi au Burundi. La communauté internationale, pour sa part, réclame à présent un report des élections pour voter dans la sérénité. À ce jour, plus de 100 000 Burundais ont fui leur pays.
Par ailleurs, les États-Unis ont aidé dimanche à évacuer du Burundi des ressortissants américains, canadiens et d'autres nationalités. Washington a prévenu ses ressortissants de la situation volatile et a assuré avoir aidé une 20aine de ressortissants étrangers à monter dans des avions en partance pour le Rwanda. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du département d'État, Jeff Radke.
Des combats se sont poursuivis hier dans le nord-est du Mali, autour de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a appelé samedi à Bamako à l'arrêt immédiat des affrontements autour de Ménaka, car ils alourdissent l'atmosphère entre le gouvernement et la rébellion, censée reprendre le dialogue incessamment.
Au moins 7 personnes ont été tuées, une 30aine d'autres blessées dans un attentat suicide dans une gare routière de Damataru, capitale de l'état de Yobe au Nigeria. Cette ville est régulièrement la cible de Boko Haram. Par ailleurs, l'armée nigérienne a affirmé s'être emparée dimanche de 10 camps du groupe islamiste Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Au cours de cette offensive militaire dans l'état de Borno, un nombre indéterminé de djihadistes ont été tués. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée, Chris Olukolade.
Au Burkina Faso, un juge d'instruction militaire doit entendre ce matin la déposition de Mariam Sankara, la veuve de l'ex-président Thomas Sankara, assassiné en 1987. Après près de 28 ans passés à attendre justice, Madame Sankara et les adhérents du mouvement sankariste sont optimistes depuis la chute de Blaise Compaoré et l'avènement d'un organe de transition qui a promis de travailler sur le dossier. C'est un moment important dans la vie du Faso, souligne Ben Youssouf Minungu, journaliste indépendant, joint à Ouagadougou.
Comme étant la première dame du défunt président et qui ne s'était jamais présentée devant la justice comme représentante des ayants droit en dehors des avocats, je pense que ça peut être pour elle aussi un acquis moral et que, enfin, le dossier de son mari qui est en train de se rouvrir trouvera certainement son dénouement. Quand la justice sera faite. Le dossier qui dure depuis 27 ans et qui a connu plusieurs rebondissements Je pense que à la faveur de la chute du président Blaise Compaoré, les autorités de la transition ont décidé de rouvrir le dossier. Donc, il y a espoir que le dossier n'évoluait pas parce que l'ancien régime avait une responsabilité certaine dans cette affaire. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne voie.
Le journaliste burkinabé Ben Youssouf Minungo, sachez aussi que l'avocat Benewende Sankara a été désigné candidat pour la présidentielle d'octobre des Sankaristes, ce courant politique se réclamant des idéaux de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara, assassiné lors du coup d'État en 1987.
Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les combats dans deux États sud-soudanais et les violations répétées du cessez-le-feu. Le Conseil estime que l'offensive de l'armée régulière dans l'État d'unité a déjà fait fuir 100 000 personnes. Les rebelles sont aussi mis en cause pour leur attaque sur la ville de Malakal dans l'État du Haut-Nil.
L'Église catholique et une ONG congolaise dénoncent la chasse à l'homme et les violations en tout genre dont sont victimes, selon elles, les immigrés clandestins à Pointe-Noire, capitale économique du pays. Commission justice et paix du diocèse catholique de Pointe-Noire et la rencontre pour la paix et les droits de l'homme citent des exactions, des violences et des traitements inhumains. Selon la radio publique congolaise, 600 étrangers ont été interpellés par la police jeudi et vendredi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, un mois après un naufrage dramatique, l'Union européenne va mettre sur pied lundi une opération navale pour casser l'activité des trafiquants en Méditerranée. Cette mission sans précédent va impliquer le déploiement de bâtiments de guerre et d'avions de surveillance des armées européennes au large de la Libye, devenue la plateforme majeure du trafic.
Exemple, quelques 400 migrants clandestins ont été arrêtés hier par les autorités libyennes avant leur embarquement pour l'Europe. Les migrants, en majorité originaires de Somalie et d'Éthiopie, ont été arrêtés à l'aube alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à Tajoura, une petite ville à l'est de Tripoli.
Revers important pour le gouvernement irakien, les djihadistes du groupe État islamique ont pris dimanche le contrôle total de la ville de Ramadi, à une centaine de kilomètres de Bagdad. Mais le premier ministre irakien a lancé un appel à la résistance après cette défaite. Chérubin Dorcil.
Les images de la télévision ont montré des soldats irakiens avec leurs armes et véhicules de combat fuyant Ramadi à vive allure à l'approche des combattants du groupe État islamique hier dimanche. Ainsi, les djihadistes ont obtenu leur plus grande victoire cette année après plusieurs jours d'affrontements intenses et un lourd bilan. Environ 500 personnes, civiles ou membres des forces de sécurité, ont été tuées durant les trois derniers jours. Plus tôt dans la journée, le premier ministre irakien Haider al-Abadi implorait ses troupes de ne pas abandonner leur poste et essayait de rallier les milices chiites pour une reconquête de Ramadi. Mais la déroute des forces gouvernementales semblait complète en début de soirée quand le principal quartier général de l'armée dans la capitale d'Al-Anbar est tombé aux mains des islamistes. La prise de Ramadi donne à l'État islamique une position avancée à seulement environ 125 km de la capitale Bagdad. Le groupe extrémiste contrôle la majeure partie de la vaste province désertique d'Al-Anbar qui s'étend des frontières syriennes, jordaniennes et saoudiennes jusqu'aux portes de Bagdad.
Le ministre jordanien de l'Intérieur Hussein Majali a démissionné de son poste sur fond de critiques contre les forces de sécurité. Le roi Abdallah II de Jordanie a accepté la démission du ministre qui occupait ce poste depuis 2013. C'est ce que rapporte un communiqué du Premier ministre Abdallah Ansour.
Au Népal, le Premier ministre lance un appel pour récolter 2 milliards de dollars pour un fonds de reconstruction du pays dévasté par deux violents séismes ayant fait plus de 8 500 morts. Le Premier ministre Sushil Koiral appelle les donateurs et le secteur privé à apporter leurs contributions.
John Kerry a rencontré le président sud-coréen Park Geun-hye à Séoul. Lors d'une conférence de presse conjointe, les secrétaires d'État américains ont rappelé le peu d'efforts fournis par Pyongyang pour freiner son programme nucléaire.
Enfin, l'agence spatiale russe Roscosmos annonce ce matin que le vaisseau spatial Progress, amarré à la Station spatiale internationale, a réussi comme prévu à mettre en marche ses moteurs, réussissant à corriger l'orbite de l'ISS. Cette manœuvre aurait normalement dû avoir lieu dans la nuit de vendredi à samedi, mais elle avait été annulée, les opérateurs de vol russe ne réussissant pas à mettre en marche les moteurs du vaisseau spatial.
Ainsi s'achève ce journal. Vous êtes bien à l'écoute de VOA Afrique. On passe tout de suite à la Minute Éco présentée ce matin
par Bagaye Sikoura.
Le Maroc, qui compte déjà plus de 1500 km d'autoroute, prévoit de construire près d'un millier de kilomètres supplémentaires à partir de 2016 pour un coût d'au moins 3 milliards d'euros. L'information a été rapportée vendredi par un hebdomadaire marocain cité par l'AFP. Un plan de création de 4 nouveaux axes routiers a été présenté ces derniers jours lors d'une réunion stratégique entre le ministère des Transports et des bureaux d'études, selon la Vie Éco. Le gouvernement brésilien, lui, a annoncé que la Chine allait investir 50 milliards de dollars, notamment dans des infrastructures, pour faciliter les exportations du géant sud-américain où le premier ministre chinois Li Keqiang est attendu demain mardi. Selon la diplomatie brésilienne, les échanges commerciaux entre la Chine et le Brésil sont passés de 3,2 milliards de dollars en 2001 à 83 milliards de dollars en 2013. Et puis enfin, la société britannique Cairn Energy est très optimiste sur les ressources pétrolières au Sénégal. Selon ses estimations, les réserves de pétrole contenues dans ces blocs au large de ce pays pourraient dépasser 1 milliard de barils. À l'issue d'une réunion tenue jeudi, Cairn Energy prévoit creuser à partir du quatrième trimestre 2015 jusqu'à 6 nouveaux puits au large des côtes sénégalaises. La phase initiale du programme de forage en 2015 sera centrée près du puits SNE1 sur lequel Cairn a découvert du pétrole l'an dernier.
Merci Bagaye. De la Minute Éco, nous passons au Journal des Sports, présenté ce matin par Élisée Ongpatin. Bonjour Élisée.
Bonjour Nicolas.
Et on commence par du football. Coupe de la Confédération, le tour de cadrage allez, a connu une très belle performance.
Exactement, Nicolas, en témoigne la nette victoire des Léopards de Dolisy 3-0 face aux Nigériens de Warriors. Plus lourd, l'Espérance de Tunis qui inflige un 4-0 aux Ghanéens d'Asofoc avec un doublé de Samuel Udoc. Sanga Balende, qui jouait à Lumumbashi, a fait le nécessaire face à Zamalek 1-0, but de Moussema Ngoa. Dans l'un des derbys du Nord, le Raja de Casablanca a battu l'Étoile sportive du Sahel 2-0. Même score pour le club sportif sfaxien, qui recevait la SEC d'Abidjan et du stade malien devant la SV Club de Kinshasa. Et puis, dans un match serré, le National du Caire est parvenu à prendre le meilleur sur le club africain de Tunis. Score final 2-1.
Et rappelons que vendredi, en ouverture, le club sud-africain d'Orlando aux Pirates a surpris l'AS Kaloum.
Les Sud-Africains ont pris une sérieuse option en allant battre l'AS Kaloum 2-0 à Bamako. Match délocalisé pour cause d'Ebola. Un score qui qualifie presque les Noirs et Blancs de Soweto pour la phase de poule de cette compétition.
On reste en Afrique du Sud où les Mamelodi Sundowns remportent la Coupe Nationale.
Effectivement Nicolas, en finale, l'équipe de Pretoria a battu après la séance des tirs au but 4-3, celle de Cape Town Ajax 0-0 après les 90 minutes de jeu. Les Mamelodi Sundowns succèdent ainsi aux Pirates d'Orlando de Johannesburg. Et au Maroc, c'est le Wydad Athletic Club de Casablanca qui remporte son 18e titre de champion. À une journée de la fin de l'épreuve, le WAC, grâce au Gabonais Malik Evouna, auteur d'un triplé face à Agadir, compte désormais 4 points d'avance sur Kouriga, son dauphin.
Et cyclisme Tour du Togo 2015, la 7e et dernière étape annulée.
Les organisateurs ont décidé d'annuler cette dernière étape pour cause de sécurité. Lors de la 6e étape, la course arrivée à Lomé a été envahie par des motos et des véhicules, ce qui a causé la chute du maillot jaune, le Burkinabé Seydou Bamogo. Une situation malheureuse que connaît la 4e édition de cette course depuis son coup d'envoi.
On n'oublie pas le handball et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui se déroule au Gabon.
Chez les dames, Nicolas, FAP a dominé Saltig 35-23, de même pour Primero do Agosto et Progresso, deux clubs angolais qui sont sortis vainqueurs de leur confrontation face respectivement à l'Étoile du Congo 31-14 et Tonnerre Karala Club 22-17. Au niveau des hommes, la grosse surprise, c'est la victoire des Algériens de la JSK 21-20 face aux Tunisiens du club africain. Pour les autres résultats, notons entre autres le succès du National du Caire 34-31 face au stade malien. Et la seconde victoire de Flowers dans cette compétition, cette fois face aux Congolais de Diable Noir 31-26. Et pour terminer, Nicolas, les playoffs de la NBA avec vous.
Oui, la NBA, le championnat de basket nord-américain, les Houston Rockets se sont qualifiés cette nuit pour la première fois depuis 1997 pour la finale de la Conférence Ouest en éliminant les Clippers de Los Angeles complètement déstabilisés par leur défaite à domicile 3 jours plus tôt. Houston, champion NBA 94-95, a remporté la série de 4-3 grâce à son dernier succès devant son public 113-100. Ainsi s'achève ce journal des sports et on remercie Élisée Oumpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. La deuxième partie de notre émission, retour sur la tentative de coup d'État au Burundi. Le général Godefroy Niyombare est toujours en fuite depuis l'échec de sa tentative de prendre le pouvoir par la force contre Pierre Nkurunziza. 17 personnes ont été arrêtées depuis dans ce dossier. Elles ont déjà été entendues par la justice burundaise. Ces personnes auraient été transférées hier soir hors de Bujumbura. Parmi elles, le général Cyrine Ndayirukiye, numéro 2 du putsch raté. Il met en cause le ministre de la Défense et le chef d'état-major dans la préparation du coup d'État. C'est ce que nous dit aujourd'hui son avocat. On écoute maître Bernard Minck.
On a convenu qu'une équipe de défense allait être organisée. J'ai constaté que très rapidement, j'ai pris contact avec un confrère à Bujumbura et très rapidement, les 17 personnes qui sont visées aujourd'hui par les poursuites judiciaires ont spontanément aussi pris divers avocats et une réunion de concertation entre les avocats va avoir lieu ce matin au niveau burundais et d'autre part, je suis en lien avec eux pour constituer une équipe qui va se mettre en place dans les prochaines heures.
Quelle est la ligne de défense de vos clients ?
Je pense que c'est un peu tôt pour évoquer une stratégie de défense. Je pense cependant que vous devez savoir que le général Cyril, interrogé par les autorités judiciaires burundaises, a expliqué que dans cette affaire, il y avait plusieurs personnes impliquées et que notamment le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée avaient participé aux réunions préparatoires et qu'apparemment, ils ont joué un jeu un peu surprenant, un double jeu, dirions-nous. Et dès lors, le général sollicite une confrontation avec les intéressés.
Les 17 personnes entendues par la justice burundaise ont-elles subi des violences depuis leur arrestation ?
Nous avons écho qu'il y a eu divers actes de violence. Je ne peux pas parler pour les militaires que je connais de graves tortures, mais il y a eu effectivement quelques actes de violence. Pour les militaires qui ne sont pas gradés, c'est toujours le problème en matière de torture, pour les militaires qui ne sont pas gradés, nous sommes très inquiets parce que ce sont en règle générale les militaires qui sont les plus exposés.
Maître Bernard Minguin, il était joint ce matin à Bruxelles. Je vous en parlais dans le journal réuni en convention sous la houlette de Mariam Sankara. Des partis politiques et des associations se réclamant du capitaine Thomas Sankara ont choisi leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le choix et la convention s'est porté sur maître Benewende Sankara. Reportage sur place pour VOA Afrique de Zoumana Wonogo.
L'idéal du capitaine Thomas Sankara est largement partagé par les Burkinabés et même hors du Burkina. Mais il faut souligner que les partis politiques se réclamant de cet idéal ici au Faso ont souvent brillé par leur désunion. La convention d'union des Sankaristes pourra-t-elle changer la donne ? Telle était la question sur toutes les lèvres.
Nous allons démontrer que les Sankaristes peuvent s'unir pour trouver un candidat unique. Le candidat pour cette convention. Le camarade Benewende Sankara et en 2015, les Sankaristes dirigeront ce pays.
Cette fois-ci sera-t-elle la bonne quand on sait que de par le passé, il y a eu des essais du genre, Nongma Ernest Ouedraogo, ministre sous Thomas Sankara, se veut confiant.
Je ne pense pas qu'il y aura des rebondissements comme nous avons malheureusement coutume de voir dans le passé. De nous tous là, c'est lui le meilleur. Donc on va le suivre, on va l'accompagner et puis on va réussir ensemble.
Mariam Sankara, l'épouse de Thomas Sankara, aura été le ciment pour cette union du renouveau sankariste.
Après l'insurrection populaire, il est temps maintenant de passer à l'insurrection électorale. L'insurrection électorale se veut aussi pacifique. Elle doit déboucher sur une forte participation du peuple aux élections qui devraient se solder par la victoire de nos représentants porteurs de notre projet politique.
Pour le candidat à la présidentielle, Maître Benewende Sankara, voici lui son engagement.
L'insurrection ne sera pas trahie, l'insurrection ne sera pas volée. Donc c'est cet engagement que nous tenons très sincèrement à respecter. Et je dois aussi dire que c'est une charge aussi émotionnelle qui pèse désormais sur nos épaules.
Il reste encore des partis politiques se réclamant de Thomas Sankara qui ont décidé de se mettre en marge de la convention. Nestor Bassière, le président du comité d'organisation de la convention, leur a fait cette adresse.
Nous demandons encore à ceux qui pensent qu'ils sont sankaristes que l'heure a sonné pour qu'on se retrouve ensemble. Sankara n'était pas divisé. Nous pensons qu'aujourd'hui, à la face du monde, au vu de tout ce que nous avons vu à l'arrivée de Mariam Sankara, ça nous impose, nous, leaders politiques, de transcender certaines choses et d'aller à l'essentiel, qui est de proposer au peuple burkinabé une alternance alternative sankariste.
Soumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
L'épidémie de méningite qui sévit depuis janvier dans plusieurs régions du Niger s'aggrave. Elle a déjà fait plus de 350 morts, soit plus de 520 000 cas, de 5200 cas suspects recensés selon les autorités sanitaires. La capitale Niamey est particulièrement affectée, relève Médecins sans frontières. Camille Grodidi a joint Dorian Job, responsable adjoint de la cellule d'urgence de MSF.
Déjà, le Niger se trouve dans la ceinture méningite. Et il y a quand même deux particularités pour cette épidémie de méningite. Ce n'est pas toujours les jours que ça arrive. La première, c'est une souche qui n'est totalement inhabituelle, qui était plutôt mineure dans le passé. Et donc, c'est la première fois qu'on a une souche C qui devient épidémique avec une telle ampleur. Et le deuxième élément, on appelle le taux d'attaque, qui est quand même assez élevé, surtout sur la capitale. On est probablement plus de 400 actuellement par 100 000, et qui est très élevé. Donc, elle a commencé un peu à bas bruit, et puis à partir de la semaine 17, mais voilà, ça s'est fortement accentué. Et donc, la majorité des cas sont apparus durant les trois dernières semaines. Donc, ça a pris de vitesse un peu tout le monde. Ça explique un peu la situation sur Niamey, mais aussi sur les autres districts aux alentours.
Les populations qui avaient été vaccinées contre la méningite sont-elles protégées contre cette souche?
Non, ce qui se passe, c'est que historiquement, c'est la majorité des souches, on appelle des méningocoques, principalement de type A parmi les cinq souches. C'était celle qui causait plus fréquemment les épidémies et c'est sur lequel les vaccins se sont concentrés les dernières années. Et cette fois-ci, c'est pour ça que ça a surpris un peu tous les spécialistes, c'est que c'est la souche C, ce qui n'est jamais arrivé dans le passé.
Est-ce qu'on dispose d'un vaccin quelconque contre cette souche?
Il y a les tétravalents qui existent, mais qui sont bien sûr un peu moins disponibles en niveau quantité et aussi au niveau des coûts, bien sûr. Donc les vaccins existent, donc maintenant il faut vacciner de façon plus large avec des vaccins qui sont moins disponibles dans les stocks mondiaux et voilà.
Et en attendant d'être vacciné, que peuvent faire les populations pour se protéger?
Il y a la prise en charge qui est très importante. Et donc la première chose, c'est de leur offrir la prise en charge. Ça peut fortement diminuer la mortalité de plus de 50% à moins de 10%. Donc c'est déjà une chose qui est importante et leur donner accès dans l'ensemble des zones qui sont touchées. Et donc c'est là où on déploie les structures de référence, la décentralisation et la prise en charge spécialisée pour ces cas. Donc ça, c'est déjà un point. L'autre élément, mais bien sûr, c'est tout ce qui est le travail au niveau du lobby pour la vaccination et pour mobiliser les vaccins qui sont disponibles dans le monde pour les faire amener pour commencer la vaccination qui a déjà commencé dans certains endroits depuis quelques semaines.
Dorian Job de Médecins sans frontières, je vous rappelle que quelques 300 000 doses de vaccins sont arrivées dans le pays et sont en cours de distribution quand plus du double ont été commandés sur 1,8 million nécessaires.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
On célébrait récemment la Journée internationale de la famille. Cette journée a été instituée pour rappeler le rôle de la famille au sein d'une nation. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Le thème 2015 de la Journée mondiale de la famille est « Les hommes en charge ». Égalité des sexes et droits des enfants au sein des familles contemporaines. La famille contemporaine est une famille nucléaire selon ces Togolais, en opposition à celle dite africaine.
La famille en Afrique, c'est le regroupement du père, de la mère, des enfants, des cousins, cousines, des grands-parents, des oncles et tous ceux qui sont proches de la famille, quoi. C'est ça la famille africaine.
Actuellement, la famille d'avant n'est plus celle d'aujourd'hui. Avant, il y avait tout un ensemble, mais actuellement, c'est entre hommes et femmes. Et les enfants.
Réduire la famille au père, à la mère et aux enfants empiète sur la solidarité qui est l'un des piliers de l'Afrique, soutient Marc Adedochile, président du Forum des organisations de défense des droits des enfants au Togo, FODET.
Cette réduction de la famille africaine à 30% la plus congrue a des conséquences désastreuses. Parce que le fait de commencer à ramener la famille au père, à la mère et seulement à ses propres enfants, fait que aujourd'hui, lorsqu'on voit des enfants qui se retrouvent dans la rue, on ne cherche même pas à savoir qui sont les parents géniteurs de ces enfants-là et on fait semblant de regarder ailleurs. Et donc, il n'y a plus cette notion de solidarité, il n'y a plus cette notion de fraternité qui existait jadis. Les gens ne voient pas la portée néfaste de cette notion familiale d'aujourd'hui.
Le thème retenu par les Nations Unies pour la Journée mondiale des familles 2015 vise donc à promouvoir l'égalité des sexes et les droits des enfants au sein des familles. Un travail qui ne peut se faire sans l'implication des organisations de la société civile. Dans ce sens, Plan Togo va piloter un projet pour la mise en œuvre des droits des enfants au Togo. François Ali, conseiller en droits de l'enfant à Plan Togo.
Le projet dont nous parlons aujourd'hui est un projet qui se focalise essentiellement sur le renforcement de la société civile togolaise acquise aux droits de l'enfant pour le plaidoyer auprès de l'État afin que la voix des enfants soit entendue.
La prévention de la violence familiale doit être de mise pour mieux protéger les enfants qui sont l'avenir du monde, dit-on souvent. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Taylor Swift. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation. On va vous souhaiter une excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent à Dakar. Sans oublier tous les Mauritaniens. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.